Au fil de l'eau revient sur cette antenne radio judaïque. Devant l'eau profonde du fleuve, vous pouvez choisir différentes visions. Vous pouvez voir ou ne pas voir au gré de vos envies. L'eau est immobile ou avec un courant, mais les fleuves, les rivières de notre belle région sont sans ambiguïté. Car si on veut voir, c'est magnifique, et si on veut entendre, c'est splendide.
Ils battent les flots, les fleuves et les canaux. Et on ne les voit jamais que le pied à quai. Marin de terre ferme, ouvrier d'eau douce, personne ne connaît la chanson du marinier.
Alors, nous allons découvrir ce monde de la batellerie et des mariniers à travers des rencontres, des reportages, des coups de cœur, beaucoup d'émotions au fil de l'eau. Embarqué.
Le 4, il était sur notre antenne le 4 septembre, ce fut un plébiscite, il a été ovationné, c'est Yvan
Tsepleïev.
Voilà, vous le savez, il est signe bélier, il est né au mois de mars, il est né en 1960, il est retraité et c'est un passionné du mur païen. On y va, la chanson qu'on aime. Est-ce que les troupes celtes auraient pu partir sur ce refrain-là?
Oui, sans doute, mais peut-être pas avec les mêmes instruments. Je suppose qu'ils devaient utiliser ce qu'on appelle le carnix.
Ah, c'est beau le carnix.
Ah, je sais, j'ai entendu le son d'un carnix, mais ça peut faire peur aussi. Hein. Surtout les Romains en avaient très très peur.
Ben oui, il annonçait les embuscades, les attaques, les surprises et tout. Alors on revient sur ce mur païen, j'ose te le dire Yvan, nous avons eu plein de retours positifs. Et quand même, ton histoire, même s'il n'y avait pas d'éléphant, et je le répète parce que j'ai été tapé sur les doigts, le fait qu'il y avait des Carthaginois qui pouvaient être peut-être à cet instant-là, à cette époque-là, 300 ans avant Jésus-Christ.
300 ans avant, enfin on va dire 218, entre 200, 222, 218, oui c'est possible.
Alors moi je dis à tous les auditeurs, et qui m'ont dit, mais est-ce que c'est un professeur d'histoire? Non. T'es pas professeur d'histoire.
Ah non, malheureusement.
Parce que tu sais, l'histoire, tout le monde aurait aimé faire des cours d'histoire avec toi. Hein. On aurait été tous avec des notes fantastiques. Hein. Alors je reviens un peu sur ça, la géographie, la géopolitique. Et Hannibal, peux-tu nous en parler un peu plus d'Hannibal? Parce qu'en fin de compte, on ne le connaît pas. Je sais qu'il n'était pas au Mont-Saint-Odile, mais Hannibal, tu peux nous en parler?
Ouais, alors surtout ne pas confondre avec Hannibal Lecter. Hein. Ouais. C'est Hannibal Barca. Hannibal Barca, c'est un homme qui est carthaginois, qui vient de la ville de Carthage, en Tunisie, et qui fait partie de la famille des Barca, sur Carthage, qui est une longue lignée, hein, puisque son père était déjà en guerre contre les Romains, Hamilcar Barca, qui a été battu donc, par les armées romaines, est battu en 241 avant Jésus-Christ et qu'il ne jurait que d'une chose, c'était de récupérer les choses perdues par Carthage en passant par l'Espagne. Et donc il a demandé à son fils d'aller battre les armées de Rome pour faire revivre la Carthage.
Alors, battu sur l'eau?
Battu sur l'eau en grande partie. Hein, parce qu'à l'époque, il ne faut pas oublier que les Carthaginois étaient les descendants plus ou moins, enfin c'était les descendants des Phéniciens.
Des grands navigateurs.
Des grands navigateurs, des grands commerçants.
Qui avaient conquis plein d'îles.
Qui avaient conquis une grande majorité d'îles de la Méditerranée, hein, comme la Corse, la Sardaigne et surtout la Sicile. Et un certain nombre de côtes, notamment des côtes de la Méditerranée méridionale. Il faut savoir que dans le nord, c'était plutôt grec, et dans le sud, plutôt carthaginois, enfin plutôt phénicien.
Alors on revient au fil de l'eau. Tu sais que le cabotage, c'est cette fameuse navigation qu'on part d'un port, on suit les côtes et on revient. Et les Vénitiens ont été les premiers à faire des traversées Donc ils avaient cette culture de la traversée, ça veut dire de prendre et de plus avoir d'horizon et d'être en pleine mer pour rejoindre une île. Donc ils savaient se gouverner par rapport aux étoiles. Est-ce que tu penses que Hannibal, pour venir au Mont-Saint-Odile, quoi, ses ambassadeurs avaient pris des étoiles ?
Oh, je suppose qu'ils avaient gardé de toute façon pas mal de connaissances au niveau des étoiles, au niveau... Il y avait beaucoup de connaissances pour ces civilisations. Hein. Je pense que c'était justement une des raisons pour lesquelles Rome avait besoin de s'affirmer et d'être à la hauteur de Carthage à l'époque. C'est pour ça qu'ils ont décidé, en -146, de totalement effacer Carthage, parce que c'était la rivale directe de Rome.
De Rome. Alors, certainement, il y avait ce champ que nous allons mettre, que tu as choisi, il est symbolique et je reviendrai dessus.
Sur les plaines de la Bretagne armoricaine, je jette un dernier regard sur ma femme, mon fils et mon domaine. Hakim, le fils du forgeron, est venu me chercher. Les druides ont décidé de mener le combat dans la vallée, là où tous nos ancêtres, de géants guerriers celtes, après de grandes batailles, se sont imposés en maîtres. C'est l'heure maintenant de défendre notre terre contre une armée de cimériens prêtes à croiser le fer. Toute la tribu s'est réunie autour de grands menhirs pour invoquer les dieux afin qu'elle puisse nous bénir. Après cette prière, avec mes frères sans faire état de zèle, les chefs nous ont donné à tous des gorges. J'ai dit d'hydromel pour le courage, pour pas qu'il y ait de faille, pour rester grand et fier quand nous serons dans la bataille. Car c'est la première fois pour moi que je pars au combat, et j'espère être digne de la tribu de Dana. De druides et de magie, toute attribu le glaive en main courait vers l'ennemi. La lutte était terrible, je ne voyais que des ombres tranchant l'ennemi qui revenait toujours en surnombre. Mes frères tombaient l'un après l'autre devant mon regard, sur le poids des armes que possédaient tous ces barbares. Des lances, des haches et des épées dans le jardin d'Éden, qui écoulait du sang sur l'herbe verte de la plaine. Comme ces jours de peine où l'homme se traîne à la limite du règne, du mal et de la haine. Fallait-il continuer ce combat déjà perdu? Mais telle était la fierté de toute la tribu. La lutte a continué comme ça jusqu'au soleil couchant. De férocité extrêmement plus d'acharnement. Fallait défendre la terre de nos ancêtres enterrés là, et pour toutes les lois de la tribu de Dana. On entendait le son d'une corne d'un chef ennemi qui rappelait toute sa horde. Avait-il compris qu'on lutterait même en enfer, et qu'à la tribu de Dana appartenait ses terres? Les guerriers repartaient, je ne comprenais pas tout le chemin qu'ils avaient fait pour en arriver là. Quand mon regard se posa tout autour de moi, j'étais le seul debout de la tribu, voilà pourquoi. Mes doigts se sont écartés tout en lâchant mes armes, et le long de mes joues se sont mis à couler des larmes. Je n'ai jamais compris pourquoi les dieux m'ont épargné de ce jour noir de notre histoire que j'ai compté. Le vent souffle toujours sur la Bretagne armoricaine, et j'ai rejoint ma femme, mon fils et mon domaine. J'ai tout reconstruit de mes mains pour en arriver là. Je suis devenu roi de la tribu de Dana. Je suis devenu roi.
ce choix n'est pas innocent. Je te connais et je sais que tu es un grand guerrier dans l'âme parce que tu te bats, quoi. Tu aimes les sports de combat, mais surtout tu aimes le déplacement, l'énergie, l'efficacité. Est-ce que dans tes recherches, ta passion de la distance dans le sport de combat et le déplacement était quelque chose qui t'a animé ?
Oui, parce que dans l'Antiquité, on avait tendance à penser que les déplacements d'armées, les choses comme ça, étaient plutôt lentes. J'ai entendu parler, par exemple, de 20-25 km par jour. Après, il ne faut pas oublier que c'est des moments où les stratégies militaires devaient être quand même beaucoup plus rapides. Et donc, j'ai essayé d'éplucher un petit peu tout ça. Et comme je fais un petit peu de sport et un petit peu de sport de combat, j'ai essayé de comprendre et de savoir s'il y avait des réalités quelque part. Eh bien, j'étais assez surpris de me rendre compte que, oui, il était possible de faire des choses beaucoup plus rapidement, bien évidemment, avec des troupes entraînées, hein, mais je pense qu'elles étaient très bien entraînées. Hein, c'était pas... Et j'ai 60 ans. Hein, quand j'ai testé ces choses-là, j'ai 60 ans, j'avais pas 25 ou 30 ans. Donc, je pouvais confirmer qu'effectivement, des choses étaient vraiment possibles.
Et comment ils faisaient pour la logistique ? C'est d'où les alliances qu'ils mettaient en place ? Avec ses ambassadeurs ?
Alors justement, oui, je pense qu'il y a eu des alliances déjà avec certains Gaulois pour avoir la possibilité de passer en Gaule sans faire trop de dégâts, parce que son but c'était quand même l'Italie. Et donc on se rend compte par exemple qu'entre les Pyrénées et les Alpes, il n'y a pratiquement pas eu de combat. Par contre, ce qui est assez étonnant justement, entre les Pyrénées et les Alpes, on se rend compte qu'il y a peut-être une possibilité qu'il y ait un manque d'effectifs. Mais on ne sait pas où ils sont passés. Il n'y a pas eu de combat réellement, mais on ne sait pas où ils sont passés. Parce qu'ils sont partis, ils avaient à peu près 60 000 guerriers aux sorties des Pyrénées, ils se retrouvent à 46 000 au pied des Alpes.
Mais tu étonnant. Sais, la Gaule était pleine de bois et il y avait des fées. Peut-être que les soldats d'Hannibal ont été attirés par les fées.
Alors là, je doute qu'à cette époque-là, les fées aient une action, hein, parce que ça rigolait pas, on va dire. Hein. C'était très stratégique, très direct et très... voilà.
Alors, il y a une chose que je ne comprends pas, si tu vas m'expliquer, parce que tu es très féru des Gaulois, des Celtes. En 222 ans avant Jésus-Christ, les Gaulois avaient presque battu les Romains.
Ah non, c'est plutôt le contraire, on va dire. Voilà. Les Gaulois étaient depuis un temps déjà dans la vallée du Pô. Et il y avait déjà des guerres entre les Gaulois et les Romains et Rome. Et pour le coup, les Romains ont repoussé totalement les Gaulois en 222 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire à peu près 4 ans avant le départ d'Hannibal Barca de Tunisie. Donc il a bien été obligé, il a eu raison de le faire. C'est pour ça que c'est quelqu'un de très stratégique et il savait voir dans les détails exactement comment il fallait faire et où il fallait passer. Donc 4 ans avant, il envoyait des ambassades pour être sûr qu'il y avait encore des peuples gaulois qui seraient de son côté, donc pour ou contre.
Alors,
Rome.
218, il part et il est dans la plaine du Pô en quelle année ?
Il est arrivé en 218, alors il est arrivé peut-être en 217 dans la vallée du Pô, mais il était quand même relativement vite. Hein. Je crois qu'il est parti au mois de mai et il est arrivé, il fallait qu'il passe les Alpes de toute façon avant les premiers combats, donc 218 ça peut être possible. Ouais.
Alors je sais que tu es très sensible sur les murs et il y a des dates comme ça qui te sont importantes. Quelques dates importantes, 1960, ta naissance, 1969.
Oui.
La naissance 900... de ton fils.
Non, pardon, 1989, c'est la naissance de mon fils, c'est le mur de Berlin.
Le mur de Berlin.
Qui tombe.
Ah, ouais. Le mur de Berlin, et il y a une musique extraordinaire pour le mur qui tombe. On va la mettre, tu vas te rappeler des souvenirs.
Can bring me your love someday.
Alors, ça te parle? Alors, on revient parce que tu vois, moi, j'ai été troublé. 1989, la naissance de ton fils et la chute du mur. Et 1969, bien sûr, toujours Armstrong, les pas sur la Lune. Tu vois, c'est toutes des époques, des murs. Alors, on parle de murs, j'en y reviendra, parce que je voudrais que tu me parles des murs qu'il y avait dans d'autres régions après la défaite et l'emprisonnement de Hannibal. Et quand Hannibal a perdu dans sa bataille dans la plaine du Pô, c'est ça ?
Non, Hannibal a perdu dans la plaine de Zama, à Carthage, en 202 avant Jésus-Christ. Et à partir de là, il est resté un petit peu sur Carthage, et ensuite il est parti dans d'autres contrées du Moyen-Orient pour toujours avoir l'idée de combattre les Romains, mais avec d'autres rois qui étaient contre Rome, et notamment en Arménie, avec le roi Artaxas Ier, qui lui a demandé d'ailleurs de bien vouloir faire les plans et de construire une ville qui s'appelle Artaxata.
Et sur la même base que le mur païen ?
Eh bien, c'est ça qui est intéressant. Il y a une publication récente hein, d'un historien ou archéologue qui s'appelle Eiko Teuyer, qui lui a fait un petit peu un point sur les méthodes de construction en tonneau et mortaise. Et en Europe, on n'en trouve pas beaucoup, mais de la même ampleur, il y en aurait deux. Il y en aurait un autre qui aurait été découvert en Arménie et l'autre en Turquie. Et pour le coup, en sachant qu'Hannibal Barca est passé en Arménie, ça sous-entend que, comme c'est exactement la même construction, et surtout aussi en Turquie, puisque Hannibal Barca est mort en Turquie, il s'est donc suicidé lorsque les Romains sont venus le chercher, et on retrouve aussi ce type de construction en Turquie, en Kirkenes. Donc c'est quand même assez curieux de se rendre compte que partout où Hannibal Barca passe, on retrouve ce genre de construction.
Alors là, j'ai un petit... j'ai perdu quelque chose. Tu m'excuses. Il est dans la plaine du Pô. Il est battu. Donc il repasse les Alpes.
Non.
Non.
En fait, c'est pas ça. C'est que la plaine du Pô, c'était un endroit où se trouvaient les Gaulois à l'époque qui ont été battus par les Romains en 222 avant qu'Hannibal parte. Hannibal est parti de Carthage en 218, moins 218, et il a traversé les Pyrénées, il a traversé les Alpes, et là il a combattu les Romains quand il est arrivé dans la vallée du Pô. Normalement il était plutôt moribond puisqu'il aurait perdu plus de 20 000 hommes dans les Alpes. Le problème c'est qu'on retrouve absolument rien. Il a 46 000 hommes avant les Alpes, il perd 20 000 hommes dans les Alpes, il arrive de l'autre côté dans la vallée du Pô, et il bat par trois fois les armées romaines. Par trois fois, il arrive à les battre, alors que les armées romaines sont plutôt fraîches.
Et comment il se retrouve à nouveau à Carthage quelques temps après ?
Alors, il est resté pratiquement 13 ans en Italie. Ah, donc pour un moribond,
c'est quand même...
C'est assez impressionnant. Mais c'est pour ça que ça permet de voir un peu la stratégie d'Hannibal et de voir que finalement, il savait faire de la propagande. D'ailleurs, il avait laissé un écrit dans le temple de Junon, dans le sud de l'Italie, pour dire qu'il avait effectivement perdu beaucoup d'hommes, etc. Tatata, mais on s'aperçoit qu'il y avait un peu de propagande là-dessus. Et lorsque les Romains se sont rendus compte qu'il fallait se battre de la même manière que Hannibal Barca, ils se sont dit, puisqu'on n'arrive pas à le chasser de l'Italie, on va aller à Carthage et on va prendre Carthage. Et à partir de là, Carthage a rappelé Hannibal pour venir défendre Carthage. Et c'est là, dans la plaine de Zama, en Tunisie, qu'il a été battu par les armées romaines.
Yvan, tu vois, j'adore, je suis plus intelligent sur l'histoire, car là, j'ai toutes les clés pour comprendre Hannibal. Mais alors, je voudrais te poser une question. Quand on parle des murs, des palissades qui entouraient Célestat, c'est quelle époque là ? Parce que là, je me perds dans les dates.
Oui, je peux comprendre. Alors, on parlait tout à l'heure du Tenchel, c'est plutôt territoire Sequane. Si on veut ramener le Mont Saint-Odile et le mur païen, je pense que pour pouvoir réunir le Frankenbourg et le Mont Saint-Odile dans la construction phénico-punique, comme je peux l'avancer, il faudrait remonter pratiquement au 1er siècle, 2e siècle avant Jésus. Déjà. Donc c'est l'époque où il y avait encore des séquanes. Parce qu'après, au 1er siècle avant Jésus et après, ce sont les triboques qui ont pris la place des médiomatriques et les roraques dans le Haut-Rhin.
Alors donc, ces fameuses palissades autour de Célestat qui s'appellent...
Alors, à l'époque du mur païen, on va dire, avant l'époque du mur païen, on pourrait dire que les Gaulois avaient une construction plutôt de palissades, comme tu l'entendais plus tôt. Après le mur païen, on peut imaginer que ce sont plutôt ce qu'on appelle le Murus Gallicus. C'est une construction tout à fait gauloise. Qui est venu à peu près au 1er siècle. Hein. Bon, ça sont des choses que je récupère, moi, dans la littérature d'archéologues et d'historiens. Donc, j'essaye de ne pas raconter des bêtises.
Mais c'est le 1er siècle. 150
ans avant Jésus-Christ, c'est ce qu'on appelle le Murus Gallicus, qu'on va retrouver sur le territoire des médiomatriques, donc au même endroit pratiquement que le mur païen, hein, chez les médiomatriques. Donc on voit bien que ça ne peut pas être la même époque et ça ne peut pas être les médiomatriques, puisque je ne vois pas pourquoi ils construiraient du Murus Gallicus d'un côté et de l'autre côté une construction mégalithique comme le mur païen. Donc ce n'est pas forcément la même époque, je pense que le mur païen c'était avant, et ensuite on se retrouve avec le Murus Gallicus qu'on trouve à Saverne et qu'on trouve aussi à Saint-Dié chez les Leucs, et qu'on trouve aussi dans d'autres régions, hein, comme Bibracte par exemple, la capitale des Éduins.
On a encore un peu de temps. Alésia est construit sur quel mode ? Alésia, la forteresse d'Alésia ?
Je crois qu'il y a aussi Murus Gallicus là-bas. Hein.
C'est ça. C'est-à-dire, c'est une association de pierre et de bois.
Oui, c'est ça. Avec des troncs de bois qui sont insérés dans la pierre et qui permettaient quelque chose que disait César, d'ailleurs, hein, dans sa guerre des Gaules, comme quoi c'était une construction intéressante puisqu'elle pouvait résister à la fois au feu et en même temps à ce qu'on appelle le bélier pour détruire les fortifications.
Bon, ben, tu vois, ce mois d'octobre, encore, on commence ce mois avec toutes ces histoires. Qu'est-ce que tu aurais à dire, il te reste une petite minute, sur le mur païen, ce mur qui te hante, mais qui t'anime d'une façon incessante.
Ce que j'ai envie de dire, c'est que, quelles que soient les choses qu'on puisse penser sur le mur païen, hein, les suggestions qu'on peut avoir, il ne faut pas les mettre toutes de côté. Et je pense qu'il faut, simplement venir sur place, le visualiser, le rencontrer, aller autant au Frankenburg, au Tenchel, au Mont-Saint-Odile, parce que c'est quand même une construction assez, vraiment, vraiment incroyable. C'est incroyable dans son contexte, en sachant que c'est la même chose que si vous découvriez une construction égyptienne dans votre jardin. C'est un peu ça pour moi, voilà.
Les pyramides ?
Non, on ne parle aujourd'hui que de Carthage au Mont-Saint-Odile, je pense.
C'est vraiment
c'est mon
dommage,
sentiment.
Moi qui veux toujours rêver à des choses. Eh bien écoute, Yvan, c'est la fin de cette émission, ta deuxième rencontre.
Merci de m'avoir reçu.
Je suis très content de t'avoir embarqué sur ma yole avec ma godille vagabonde.
Ah, c'est magnifique. Et en plus, ce qui est vraiment bien, ça je peux le dire, en tant que citoyen, d'avoir la possibilité de s'exprimer, c'est top.
Les fleuves et les canaux. Et on ne les voit jamais que le pied à quai. Marin de terre ferme, ouvrier d'eau douce, personne ne connaît la chanson du marinier, martelé au rythme d'un moteur régulier, un bruit répétitif aux effluves de gasoil, et ça cogne du cœur jusque dans la cale. À la croisée des usines et des cathédrales, des jours passés à noyer le temps et les paysages, une mélodie oubliée entre la Seine et l'Oise. Chant de batelier, les fleuves, les canaux, les rivières. Chante le refrain oublié du voyageur linéaire. Toute une vie qui se traîne en longueur, de Paris, Anvers ou Amsterdam, au rythme de l'eau et du moteur, endosser sa vareuse et son vague à l'âme. Vogue la galère et les instants de bonheur, finir les fins de mois, même à la rame. Prendre le temps qui s'écoule, tout en douceur. Au café du port, ils prennent des nouvelles. Du mariage de l'un, du décès de l'autre. Revoir son fils qui préfère vivre en ville. Ou de sa fille qui est restée pensionnaire. Parler de la Somme comme si c'était du Nil. Écluser des verres et tenir bon comptoir. Un chargement de souvenirs bien ancrés. En avoir plein la tête et plein la cabine. Remonter à bord et vaille que vaille. garder le cap et tenir bon le gouvernail. Chante, batelier, la chanson anonyme du canal. Chante le refrain de la galère sans manivoile. Toute une vie qui se traîne en longueur, de Paris, Anvers ou Amsterdam. Au rythme de l'eau et du moteur, endosser sa vareuse et son vagalame. Vogue la galère et les instants de bonheur. Finir les fins de mois, même à la rame. Prendre le temps qui s'écoule, tout en douceur. Accroché en cabine, le saint patron et photo familiale. Tout un monde rétréci d'un amour fluvial. Le cœur coincé entre la berge et la bergère. Le touriste de passage n'y verra qu'image d'épinal. À bord, il n'y a pas que de l'eau douce ou du vin ordinaire. Il y a des hommes, des vrais, une vie intime et solidaire. L'amour reste à flot, que la soute soit pleine ou vide. Barré toujours droit devant et par tous les temps. Pour femmes et enfants, seul maître à bord, fier et solide. Ne pas faire de confidence, ne jamais parler de sa vie. Chanter pour soi son voyage solitaire et voir du pays. Rester inconnu et fier comme l'homme du Picardie.